Comment perçoit-on le visage d'un inconnu selon qu'on est caucasien de Toulouse, asiatique ou africain? Tel est l'objet de l'étude menée par près de 200 chercheurs du monde entier, parmi lesquels Gwenaël Kaminski, il est biologiste de formation, enseignant-chercheur à l'université Toulouse Jean Jaurès. Il est en ligne ce matin avec nous pour nous donner les enseignements de cette étude publiée début janvier dans la revue Nature Human Behavior. Bonjour Gwenaël Kaminski.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous voulez bien, Gwenaël, on va préciser l'objet de cette étude. L'idée, je croise quelqu'un dans le métro ou dans la rue, n'importe où, quelqu'un que je n'ai jamais vu, comment je vais analyser son visage, hein, c'est ça?
Tout à fait. Alors, en fait, un visage, les visages, ils sont tous différents les uns des autres, chaque visage est unique. Mais malgré que tous ces visages soient uniques, ils partagent tous des caractéristiques communes, comme la disposition des yeux, la bouche. Et l'expérience intensive qu'on va avoir avec ces caractéristiques communes des visages depuis notre enfance va faire que on va traiter les visages d'une façon très particulière et on va être expert à reconnaître les visages. Et ça, par exemple, on pouvait estimer que la mémoire faciale d'un individu est autour de 5000 visages. Donc on mémorise au total, à peu près 5000 visages.
Mais les visages. Un individu peut mémoriser 5000 visages?
Oui. Alors, ça varie d'un individu à l'autre, mais en moyenne, c'est autour de 5000 visages. Alors, quand on croise un individu dans la rue, il est possible qu'on le connaisse pas. Et les visages, ça va être une mine d'informations. Mais c'est aussi quelque chose de très complexe. Ça va être dynamique dans le temps, de façon instantanée. On va par exemple passer d'une expression de sourire à une expression de peur très très vite. Ça va être très diversifié entre les différentes cultures. Et c'est une source d'information pour estimer par exemple l'âge de la personne, son genre, son ethnie. Et c'est aussi une source d'inférence. C'est-à-dire qu'on va avoir un visage, en déduire certaines caractéristiques de la personne, comme par exemple la dominance, l'attractivité, la confiance, sa santé. Et c'est dans ce cadre sur les sources d'inférence que nous avons fait notre étude. Et l'idée était de voir si les inférences spécifiques que l'on fait en voyant un visage sont applicables aux quatre coins de la planète ou s'il existe des variations régionales dans les inférences.
Et alors, comment est-ce que vous avez procédé pour mener cette enquête à si grande échelle? Je crois qu'il y a 11 000 participants provenant de 11 régions du globe, donc sur les 5 continents qui ont été sollicités. Comment vous avez fait?
Alors, effectivement, on a recruté plus de 11 000 participants qui provenaient de 5 régions du globe. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a choisi une tâche qui était assez simple. On a fait des mesures comportementales et les participants devaient évaluer, peu importe à l'endroit où ils se trouvaient dans le monde, les visages sur 13 traits distinctifs. Ils devaient évaluer les visages sur une échelle de 1 à 10. Donc, par exemple, le participant, je vais prendre un participant qui se trouvait en Asie, il voit un visage et il devait évaluer ce visage sur une échelle d'attractivité, par exemple, et puis l'évaluer de 1 à 10. Et donc on a montré tous ces visages, des visages de différentes ethnies, et puis en parallèle, on a fait une grosse équipe de chercheurs interdisciplinaires internationales avec plus de 200 chercheurs qui nous a permis d'avoir des chercheurs implantés localement partout. Donc il a fallu traduire toute l'enquête en différentes langues, et ce qui nous a permis au final de recruter plus de 11 000 participants.
Et alors, est-ce qu'il y a une façon commune, allez, à nous par exemple, Toulousains, de décrypter les visages? Est-ce qu'il y a un modèle dominant?
Alors, oui, il y a un modèle dominant. Ce modèle-là, il a été fait il y a un peu plus de 10 ans, qui postule que pour décrypter un visage inconnu, on va inconsciemment l'évaluer sur deux grandes dimensions. C'est ce qu'on va appeler le modèle de valence-dominance. Donc, le terme dimension veut dire que ça va être un regroupement des facteurs cachés ou latents qui vont correspondre à plusieurs mesures. Et dans ce modèle de valence-dominance, on va donc avoir une dimension de Valence qui va estimer un peu la fiabilité, la confiance qu'on peut attribuer à un visage. Et puis la deuxième dimension va être l'aspect dominance. Est-ce que cette personne va être un leader? Est-ce qu'elle est potentiellement agressive? Voilà. Et donc
ça veut dire que sans m'en rendre compte, quand je croise quelqu'un dans la rue, le prisme par laquelle je le regarde et je le jauge et je le juge, c'est sa fiabilité et c'est si c'est une personne leader ou non. Tout ça étant évidemment inconscient, c'est ça?
C'est ça. En fait, on peut imaginer dans la tête avoir une représentation en deux dimensions. Et donc, on va avoir une dimension sur la valence, la confiance qu'on peut attribuer à la personne. Et puis, sur l'autre dimension perpendiculaire, on va avoir la dominance. Et quand on va croiser une personne dans la rue, en gros, son visage va se situer quelque part dans les quatre cases que forme cet espace. Et voilà. Alors, ça, c'est le modèle dominant. Et nous, justement, on a voulu tester ce modèle qui a été initialement développé dans les régions nord-américaines pour voir si, effectivement, ce modèle s'applique à l'ensemble des participants ou à l'ensemble des gens de la planète, quoi.
Et alors, résultat des courses, qu'est-ce que votre étude a montré? Est-ce qu'on traite les visages de la même façon au bout du monde?
Alors, non.
Ah non.
L'étude a montré que non, on ne traite pas finalement les visages de la même façon. Alors, on savait déjà que quand on va scanner un visage, quand on va regarder un visage, d'un point de vue perceptif, on va pas le voir tout à fait de la même façon en fonction de notre ethnie ou de la culture. Nous, Toulousains, par exemple, on va scanner le visage d'une personne inconnue, on va regarder principalement ses yeux et la bouche. On va le scanner en formant un T. Le T pour le haut du T pour les yeux, et puis après on va descendre vers la bouche. Dans les populations asiatiques, elles vont pas du tout regarder les yeux et elles vont se focaliser sur la bouche et le nez. Et les populations africaines, par exemple, elles vont regarder plutôt vraiment le centre du visage. Et là, donc notre étude, elle a essayé de voir si effectivement les inférences étaient également différentes. Et c'est bien ce qu'on a trouvé. On a trouvé que même si on voit le même visage, si on est en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud ou en France, on ne va pas inférer les mêmes choses sur ces visages.
Ça veut dire que, pour résumer ce que vous me dites, un Japonais, par exemple, quand il croise un autre Japonais, ne le juge pas à travers ce prisme de la valence et de la dominance.
C'est ça. Alors, par exemple, on va prendre la population asiatique. Alors, même s'il y a des différences, effectivement, entre un Japonais, un Chinois, un Indien, on va prendre la population asiatique dans son ensemble. Ici, on va également retrouver deux grandes dimensions qui vont être importantes. On va retrouver le concept de valence, mais par contre, le deuxième concept, ça va être plutôt un concept sur la compétence de la personne. C'est une compétence qui peut être corrélée avec comment il a attribué le statut social, l'intelligence de la personne. À l'inverse, par exemple, une personne en Amérique du Sud, elle va avoir toujours la dimension de dominance qui va toujours être présente. Mais là, en deuxième dimension, on va plutôt avoir un facteur en relation avec les critères sociables, heureux de la personne. Mmh. Pour en revenir aux Toulousains, en fait, il semble que nous, c'est plus raisonnable d'avoir un modèle non pas sur deux dimensions, mais plutôt sur trois dimensions, avec la confiance, la compétence et l'attractivité qui sont les dimensions dominantes.
Et alors, j'imagine qu'on n'a probablement pas la même façon de traiter le visage de quelqu'un de son ethnie. Par exemple, est-ce que nous, caucasiens, on n'a pas un peu l'impression que tous les Asiatiques se ressemblent?
Oui. Vous avez raison, effectivement, quand on voit un visage asiatique ou africain, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Alors, ouais. C'est pas une mauvaise volonté de notre part, mais c'est une réaction inconsciente immédiate. Et ça s'explique parce que constamment, on va avoir des visages autour de nous avec une certaine forme, etc. Et dans notre tête, on va mémoriser tous ces visages à partir d'un visage moyen. Et plus ce visage s'éloigne de notre visage moyen, plus ce visage va être distinctif, on va le reconnaître. Quand on croise quand on va par exemple en Asie, qu'est-ce qui se passe? Ici, le visage moyen des gens qui nous entourent n'a rien à voir avec le visage moyen quand on est à Toulouse. Et donc, on va avoir du mal à bien différencier tous les visages et on va avoir l'impression qu'ils se ressemblent tous.
On perd ses repères, quoi.
On perd complètement ses repères, voilà.
Et alors, à quel âge ça se met en place, ces modes de perception?
Alors, c'est très rapide. En fait, à 3 mois, tous les nourrissons peuvent facilement identifier les différents visages. Et puis, après 3 mois, jusqu'à à peu près 1 an, l'enfant, il va grandir avec plein de visages, probablement de son ethnie. Il va se spécialiser pour ce type de visage-là. Et donc, à 12 mois, ils vont perdre leur capacité à discriminer, à différencier les visages d'une autre ethnie, alors qu'ils en sont capables à 3 mois.
Ça alors. Et alors, est-ce que la perception change selon que je suis un homme ou une femme? On peut imaginer qu'une femme qui perçoit le visage d'un homme s'y mêle peut-être la séduction également, je ne sais pas.
Alors, je ne suis pas sûr que la perception change vraiment entre un homme et une femme. Par contre, ce qui va changer, c'est notre environnement et nos expériences de vie vont influencer la façon de percevoir qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Par exemple, il y a quelques années, une équipe italienne avait fait des études avec les sages-femmes et les professeurs des écoles et une population tout venante. Et on demandait aux gens de mémoriser et reconnaître des visages, soit de nouveau-nés, soit des enfants, par exemple, de 5 ans. Et pour nous, pour une population tout venante, ça va être très compliqué de reconnaître de faire la différence entre différents nouveau-nés ou des enfants de 5 ans. Par contre, les sages-femmes ou les professeurs des écoles, ils vont avoir aucune difficulté à reconnaître, à différencier ces différents enfants parce qu'ils vont devenir experts dans cette catégorie de visages particuliers. Donc là, on voit bien comment notre expérience de vie modifie la perception des visages, en fait.
Alors, à vous qui nous rejoignez, on est en compagnie de Gwenaëlle Kaminski, biologiste de formation, enseignant-chercheur à l'Université Toulouse Jean Jaurès. On parle visage, on parle perception, et ceci à l'occasion d'une étude qui a été réalisée par 200 chercheurs, dont un Toulousain, donc 41 pays concernés, 11 000 participants. Gwenaëlle Kaminski, quelle suite va être donnée à cette étude? Autrement dit, ça sert à quoi de savoir tout ça?
Oui. Vaste question.
Et oui.
Alors, cette recherche, elle va nous aider à entrevoir, elle nous aide à entrevoir comment l'environnement culturel et ethnique façonne le traitement des visages, mais elle permet aussi de montrer que en sciences humaines, il va être difficile de généraliser des résultats. Et ce genre d'étude est d'autant plus important que en psychologie. Par exemple, on sait que plus de 85% des études se font sur des populations nord-américaines ou britanniques, et qu'à partir de ces études, on va établir des grands modèles, des grands principes, mais en fait, il y a peu de réalité, il y a peu de validité écologique. Donc, a besoin d'avoir de grandes études comme ça internationales sur l'ensemble de la population mondiale. Pour montrer que effectivement ça peut s'appliquer ou non. Et dans notre étude, effectivement, ça ne s'applique pas, quoi.
Pour nuancer, bien vu, effectivement. Et alors, on va quitter cette étude, si vous voulez bien, Gwenaëlle Kaminski, parce que je crois que vous avez d'autres objets d'étude sur les visages. Il nous reste 2 minutes. Il en est une qui n'est pas sans intérêt non plus. C'est celle que vous avez sur les ressemblances faciales. Vous travaillez sur les ressemblances entre les individus, entre membres d'une même famille. Sur quoi portent vos recherches?
Alors effectivement, mes recherches, elles vont s'intéresser à la capacité à détecter la parenté, donc soit notre parenté à nous, soit celle entre de tierces personnes. Et un des moyens de détecter la parenté, effectivement, c'est la ressemblance faciale. Et donc, je vais conduire des recherches pour étudier la ressemblance faciale autant chez des tierces personnes que quand je vois un visage, moi, qui me ressemble, comment je vais modifier mes comportements pour interagir avec ce visage.
Parce que quand on voit quelqu'un qui nous ressemble ou qui ressemble à quelqu'un de connu, on modifie son comportement.
Complètement. Alors, effectivement, si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vous ressemble, vous allez faire confiance en cette personne, vous pouvez même avoir des comportements plus altruistes envers cette personne. Et alors ça, on peut l'étudier de façon assez simple. En fait, on peut prendre une photo d'une personne. Maintenant, on a des outils informatiques qui permettent de très finement modifier les ressemblances. Et on peut faire jouer notre participant avec différents visages, dont certains lui ressemblent ou pas. Alors, il ne le voit pas de façon... C'est inconscient, hein, mais... Et effectivement, il va modifier ses comportements face à ce type de visage qui lui ressemble.
Eh bien, c'est passionnant. On vous réinvitera pour nous faire part du résultat de ces autres travaux. En attendant, ici ou ailleurs, perçoit-on différemment les visages inconnus? On l'a vu, la réponse. Et oui, merci beaucoup, Gwenaëlle Kaminski, de nous avoir fait partager vos découvertes. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Toulouse. Jean Jaurès, merci à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir, bonne journée.